c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour passer ce week-end en votre compagnie.
Putain,
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année. C'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Non.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ?
Fausses offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot, connerie, cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins, là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui.
Oh, René, tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein. La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Vous êtes bien sur les ondes du 102.2 et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Ce soir, au programme.
Ah, un animateur qui mange du pain et qui, dans la rubrique locale, vous dit qu'on va parler de la lutte en soutien des familles sans toit à Vaux-en-Velin qui continue.
Et puis dans la rubrique locale, juste après, on vous parlera de la skyline de la Pardieu. La skyline, c'est l'apparition de plein de tours au niveau de la Pardieu et une résistance s'organise.
Et puis au niveau du national, on ira du côté de la Meuse avec notre super reporter qui vous fera un point sur la situation à Bure.
On vous fera un petit bilan partiel des personnes blessées et mutilées depuis le début des manifestations des Gilets jaunes.
Et puisque tout le monde en parle, on parlera nous aussi des révélations de Mediapart et des petits sons qu'ils ont trouvés sur l'affaire Benalla.
On parlera ensuite de la pénalisation de la prostitution.
Et puis la lutte dans les centres de rétention administrative, les fameux CRA, elle continue, on vous en parlera aussi.
Et on finira par le traditionnel agenda.
Bonne écoute sur le 102.2.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est de la lutte des instits à Vaux-en-Velin.
Ce reportage sur la grève qu'on a vu les interjouer pendant la maison. Canu Info du vendredi. Rubrique locale. Et en rubrique locale, on vous parle tout d'abord de ce qui se passe à Vaux-en-Velin. On vous en a parlé aussi la semaine dernière. Et en fait, c'est plusieurs collectifs, Jamais sans toi, des écoles primaires et collèges de Vaux-en-Velin, qui sont en lutte, en soutien aux familles des élèves qui sont à la rue depuis plusieurs mois, sans solution proposée par les autorités publiques. Alors du coup, on vous avait dit qu'il y avait au début de la mobilisation, il y a 2 mois, 49 enfants qui étaient à la rue. Il y a quelques familles qui ont pu être mises à l'abri, mais de façon très précaire, dans des gymnases. Et 29 enfants de Vaublin sont encore aujourd'hui à la rue, bien entendu, avec leur famille. Ce qui se passe depuis la rentrée, depuis janvier, c'est que les écoles s'organisent et une fois par semaine, il y a une occupation dans l'une des écoles, ce qui a permis une médiatisation sans précédent. Et on vous avait aussi dit la semaine dernière que jeudi 24 janvier, une délégation de Jamais sans toi à Vaublin avait été reçue par la préfecture. Pourtant, il n'y a pas eu de proposition jusqu'à maintenant pour les familles à la rue. Et pire encore, une famille de 5 enfants hébergée temporairement par la métropole au titre de la protection de l'enfance a été remise à la rue dimanche soir. Du coup, mardi 29 janvier, c'était au tour de l'école Paul Langevin d'accueillir les familles vaudaises pour l'occupation hebdomadaire. Et ce qui s'est passé le lendemain, c'est que l'équipe enseignante de cette école a fait l'objet d'intimidation de la part de l'inspection académique du Rhône, alors même que les occupations avaient eu lieu en dehors du temps scolaire et n'avaient jamais entravé la bande tenue des cours. Et on rappelle aussi que la mairie de Vaublin elle-même avait entravé ses occupations et depuis le début n'a apporté aucun soutien à ses équipes d'enseignants et à ses familles. Le collectif Jamais sans toi rappelle qu'il n'acceptera aucune remise à la rue des élèves et de leurs familles et qu'il va continuer à occuper des écoles tant qu'il n'y aura pas une solution durable pour toutes les familles à la rue de Vaublin. Du coup, voilà, normalement, sauf une solution rapide trouvée par la préfecture, la prochaine occupation aura lieu mardi prochain.
Et on leur souhaite tout notre courage, on les soutiendra. En tout cas, on va vous parler d'un thème dont on parle rarement, c'est-à-dire l'urbanisme de Lyon. Et on va parler plus particulièrement de la skyline de la Part-Dieu. La skyline, c'est le grand rêve de Gérard Collomb, qui a placé une énergie folle dans l'accomplissement de son rêve, c'est-à-dire de bâtir une skyline, hein, littéralement une ligne de ciel, c'est-à-dire la manière dont on décrit comment les immeubles se dégagent sur le ciel pour donner un horizon à la ville. Il veut en faire un truc un peu à l'américaine ou à la londonienne. Il veut une city lyonnaise. En fait, ce qu'il veut, c'est un véritable alignement un peu phallique pour graver à jamais dans l'histoire de la ville et dans son paysage, sa postérité. Mais dans un contexte où le pouvoir de Gérard Collomb commence un petit peu à s'effriter, comme les fenêtres d'une des tours de la Part-Dieu, la Tour In-City, et ben son beau projet, il risque un peu de s'effondrer. En fait, dans les rêves les plus fous de Gérard Collomb, c'est une dizaine de tours qui devraient fouler les cimes lyonnaises d'ici à la fin de son règne. Or, à ce jour, malheureusement pour lui, seules deux d'entre elles ont finalement pu voir le jour aux côtés de la vieille tour du crayon, donc la tour In-City et la tour Oxygène. Et pour accélérer le développement de son projet et permettre l'implantation rapide de nouvelles tours, eh bien, tous les réseaux de Gérard Collomb sont mis à contribution. Il y a quelques jours, environ 15 jours, ce sont chez ses amis du Progrès économique, un nouvel article à la gloire de la métropolisation hypertrophiée est sorti, en l'occurrence le 15 janvier, avec comme gros titre l'adhésion des Lyonnais au projet. Selon le sondage publié par le Progrès, 59% des Lyonnais se montreraient en effet favorables à l'implantation de nouvelles tours dans le quartier de la Part-Dieu. Une véritable aubaine pour l'équipe de Collomb à 15 mois des prochaines élections municipales. Il semble ainsi fortement soutenu. Mais contre toute attente, cette enquête, pourtant si complaisante à l'égard de Collomb et de sa politique de marketing urbain, a en fait plutôt réanimé ses farouches opposants. Le collectif d'habitants Part-Dieu, qui se mobilise depuis désormais 14 ans, donc depuis 2005, contre la rénovation urbaine du quartier et la destruction de la mixité sociale qui y règne encore, s'est en effet saisi de cette enquête pour mieux la dénoncer. Ainsi, dans un communiqué, ils écrivent, je cite, « Cette enquête représente une véritable manipulation de l'opinion publique puisqu'aucune méthodologie de représentativité des sondés n'a été mise en place. » ont répondu en fait « ceux qui ont bien voulu, ce qui ne garantit en aucun cas que ce soit représentatif de l'avis des Lyonnais ou des Lyonnaises, puisque l'échantillon ne l'est forcément pas du tout. » Aucun débat n'a été organisé sur les avantages et inconvénients de tels projets, notamment leur coût, la consommation énergétique, les conséquences environnementales, la hausse prévisible du foncier, c'est-à-dire des prix de l'immobilier, les nuisances pour les riverains, les problèmes d'insertion urbaine, l'impact paysager, n'est-ce pas, de la skyline lyonnaise et enfin des alternatives possibles à cette fameuse skyline. Le collectif Pardieu dénonce en fait une désinformation faite à coups de communication clinquante et onéreuse du projet de refonte urbaine verticale de la Pardieu. Ce collectif se bat contre, avec des forces inégales, face à un rouleau compresseur des politiques des multinationales du béton, elles-mêmes solidement liées pour le meilleur et surtout pour le pire avec les pouvoirs publics. Ce lien est devenu encore plus puissant avec la création en 2014 d'une SPL, c'est-à-dire une société publique locale d'aménagement de la Pardieu, c'est-à-dire qui est dirigée directement par le politique, mais en lien très fort avec ses grands élus, et qui permet, cette société détenue à 90% par la métropole, à Colomb d'avoir une mainmise très forte sur ce projet d'urbanisme. Et là, évidemment, à sa tête, cette société publique locale d'aménagement, un certain Gérard Collomb, qui d'autre finalement pourrait diriger l'aménagement de la Pardieu. Le collectif profite de la sortie de ce sondage, grossière publicité à la politique de Gérard Collomb, mais aussi de la conjoncture nationale de développement des débats publics pour contrecarrer cette mauvaise réclame en invitant à inclure véritablement les Lyonnais et les Lyonnaises dans la décision, y compris celles et ceux qu'on l'a finalement si longtemps réussi à invisibiliser. Et je cite à nouveau le communiqué du collectif Pardieu qui dit « Comme notre président, il parle d'Emmanuel Macron, nous invite au grand débat en toute franchise, sans tabou, on pourrait à Lyon organiser un vrai grand débat sur l'urbanisme qui permettrait d'éclairer ce référendum. Qu'un véritable référendum citoyen soit organisé sur cette question et laisse la possibilité à tous les habitants de la métropole de s'exprimer. Ce véritable débat serait largement ouvert à tous les avis contradictoires qui pourraient s'exprimer à part égale sur les conséquences et les enjeux des différents aménagements. » Bref, au moment où tout semblait bouclé, où les tours, alors je vous cite les noms incroyables des tours qui devaient voir le jour à Lyon, Silex 1 et 2, tout Lyon, ils disent tout Lyon en vrai dans leur communiqué, Sky 56 et toutes les autres allaient pouvoir sortir de terre sans aucune forme de débat. Eh bien, le collectif propose l'idée d'un grand débat sur le développement de la skyline La Pardieu, ce qui embête un peu Gérard Collomb. Si un tel débat a lieu, ce qui, avouons-le, est quand même loin d'être probable, voire assuré, le choix d'implantation des tours pourrait être remis en cause, ce qui constituerait un petit coup de tonnerre au niveau de l'urbanisme local. Et face à la mise sous silence de tous les contre-pouvoirs à son action durant des années, Collomb voit revenir plus forte et plus légitime que jamais une opposition à son projet de ville verticale qui ne parvient pas vraiment à faire taire cette opposition. En effet, alors qu'auparavant rien ne s'opposait finalement à la machine à broyer de Gérard Collomb, l'opposition profite du lent mais inexorable effritement du pouvoir de Gérard Collomb depuis son retour à Lyon il y a quelques mois, en mode sauf qui peut, hein, il a quitté le gouvernement au bon moment, il doit être bien content quand même de ne pas avoir à gérer la merde actuelle. Son pouvoir totalitaire sur le territoire lyonnais prend du plomb dans l'aile, avec notamment ses vieux poulains, ses vieux copain qui n'hésite plus à se mettre au milieu de sa route, puisque David Kimmelfeld, l'actuel président de la métropole, a annoncé qu'il allait se représenter face à Gérard Collomb aux élections. Ce dernier réalise en effet un nouveau pied de nez à Gérard Collomb, qui commence un peu à avoir en plus des embrouilles internes, et ça risque d'être un petit peu compliqué, et il risque d'y avoir des enjeux qui vont se discuter au moment des élections locales dans un an sur ces questions d'urbanisme, ces questions de grande tour à la Pardieu ou pas. Reste à voir si tel l'effet papillon, ce petit grain de sable dans la chaussure de Collomb contribuera à le faire dégringoler encore plus vite ou si tel un phénix, il renaîtra encore plus fort.
Canu Info.
Gendarmerie nationale! Vous arrêtez un peu les conneries, là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et on va vous faire un petit point sur les personnes qui ont été blessées autour du mouvement des Gilets jaunes en suivant le travail fait par David Dufresne. Alors David Dufresne, comme beaucoup de monde, est journaliste. Comme un peu moins de monde, il est journaliste indépendant. David Dufresne, comme beaucoup de monde, a un Twitter. Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde, son Twitter, il lui sert à recenser les violences policières qui ont été commises pendant le mouvement des Gilets jaunes. Il a aussi sur Mediapart une infographie en temps quasi réel qui est très souvent actualisée du nombre de personnes avec photos, chiffres à l'appui, tout ça, qui ont été blessés pendant ce mouvement. Alors à ce jour, il a dénombré 375 donc, signalements donc, qu'il a trouvés ou qui lui ont été transmis et qu'il a vérifiés, de gens blessés assez durement, puisqu'on parle de, dans ces signalements, 166 blessures à la tête, un décès, 17 éborgnés et 4 mains arrachées. Alors comment elles arrivent ces blessures? Elles arrivent en grande majorité par le très polémique objet du moment, le lanceur de balles de défense, anciennement appelé flashball, puisque c'était une marque. Alors il y a 173 personnes qui ont été blessées au visage par...
En fait c'est pas exactement la même arme. Le flashball que le LBD.
Il était moins précis, 40. C'est ça
Oui, il était moins précis, il tirait un peu moins loin. C'est pas exactement la même.
Ok. Bon, voilà. Qui le remplace par sa précision et sa distance de tir. Donc, qui a réussi à blesser 173 personnes dans ces 375 signalements faits par ce journaliste. Aussi, les grenades de désencerclement, qui sont des grenades qui explosent et qui jettent des petits débris qui rentrent dans les chairs. Donc là, il y a 31 blessés. Et puis, les GLI F4, qui sont des grenades qui mélangent de la lacrymo et de la TNT, qui éclatent très fort et qui ont fait 18 blessés. Il les compare avec des chiffres officiels, donc les chiffres de la police du ministère de l'Intérieur, qui eux dénombrent plus de blessés, 1900, 7000 interpellations, 1000 condamnations, attention les tirs de LBD du coup, 9228 tirs, et pour les blessés des forces de l'ordre, ce qu'on entend très très souvent dans les médias, c'est les fameux 1200 blessés du côté des forces de l'ordre, et sachant que ce chiffre est quand même à rapporter au fait que ça permet souvent aux flics d'arrondir leur fin de mois, comme on a souvent parlé, parce que ça leur permet après d'avoir des dommages et intérêts, que c'est souvent des blessures qui sont pas des blessures très graves, et que ça permet aussi, une fois qu'on a tabassé quelqu'un, de le rendre coupable quand on est force de l'ordre, de se présenter comme blessé. À titre de comparaison, quand on a vite fait chercher sur le web, on a trouvé dans la loi travail le nombre de mutilés selon Amnesty International au visage par des types de flashball, c'était 3. Donc là on est à 17 éborgnés. Et aujourd'hui, bien sûr, pour rester dans l'actualité, on a appris que la demande de suspension du LBD a été rejetée par le Conseil d'État et que secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur a décrété que c'était des armes intermédiaires qui étaient fondamentales car qu'elles permettent de maintenir à distance des manifestants, des casseurs, voire d'aller au contact pour interpeller sans utiliser des moyens pour tuer. Une bonne manière de justifier une arme qui blesse grièvement en disant que sinon ils vont être obligés de tuer des gens. Merci.
Mais c'est vraiment un argument très très intelligent quand même, enfin, de te menacer de te tuer et du coup de dire quand même des armes qui sont parfois qualifiées de létalité réduite. Certes, t'es mort, mais t'es presque pas mort. Enfin, en même temps, venant d'un type qui est employé par un ministre de l'Intérieur qui te dit qu'il n'y a pas eu de blessés, qu'il a évidemment eu aucun abus policier du tout, ce qui est quand même, faut vraiment être très très fort pour réussir à tenir ce genre de propos.
Et sur le sujet du LBD, il y avait un traitement médiatique cette semaine qui était assez drôle aussi, c'est un des autoproclamés leaders des Gilets jaunes, je ne sais plus son nom, qui a perdu un œil à Paris. Ouais. Et alors le grand débat, c'était de savoir s'il avait perdu son œil par un LBD ou un éclat de grenade, et si c'était un éclat de grenade, c'était moins grave. C'est un peu l'équivalent de l'affaire Benalla, si Benalla était vraiment un flic, taper un manifestant, c'était moins grave.
Et sachant aussi qu'il y a eu un grand débat qui a commencé par dire non, nous n'avons pas utilisé de LBD à ce moment-là, suivi d'une vidéo où on voit des flics tirer au LBD, suivi donc ce n'est pas le LBD qui a touché la personne, c'est autre chose.
Alors le ministère de l'Intérieur a reconnu, je crois aujourd'hui, qu'il y avait bien eu un tir de LBD sur cette personne.
Je crois qu'ils ont été un peu eus parce qu'il y a eu une vidéo qui est beaucoup trop évidente pour qu'ils puissent malheureusement pouvoir la contredire.
Et au-delà aussi de refuser d'interdire le LBD, moi, il me semble avoir vu passer le fait qu'ils voudraient des nouveaux équipements qui vont en acheter qui tirent à plus à 30 mètres pour toucher la cible mais jusqu'à 100 mètres.
C'est possible.
Voilà. D'accord, bah, sachant qu'on a vu aussi fleurir ces derniers temps ceux qui tirent plusieurs coups en même temps, les espèces de sulfateuses, les Riot Gun Pen Arms, et qu'on avait vu surgir à Lyon en 2016 pour la première fois et qui sont revenus beaucoup, beaucoup dans les manifestations récentes.
Puis on vous rappelle quand même que ces chiffres de blessés sont très fortement minimisés par rapport à la réalité et qu'en fait il y a vraiment plusieurs milliers de personnes qui sont blessées dans ces manifestations et plusieurs centaines chaque semaine. Et que là c'est vraiment les choses où il y a des vidéos où c'est des blessures dites graves, mais des personnes qui sont atteintes dans leur corps par la violence policière, c'est quelque chose qui est quotidien et d'autant plus fort dans ces manifestations actuellement.
Et ces manifestations se tiendront pour celles et ceux qui fun y venir à Lyon demain comme tous les week-ends et à Valence pour la grosse régionale, mais il y en a une à Lyon aussi pour en début d'après-midi. Il y a également, pour terminer sur le dossier Gilets jaunes, un très bon dossier qui a été publié par le journal grenoblois Le Postillon, qui a fait un travail d'enquête sur les ronds-points autour de Grenoble entre décembre et janvier. On l'a oublié à la maison.
Et on reste dans le cadre des luttes fortement réprimées pour vous passer un reportage fait par un camarade qu'on remercie beaucoup. Ce reportage, il donne la voix à des militants et militantes qui luttent à Bure et qui sont en train de faire un espèce de tour de France pour questionner tout le monde sur le nucléaire et pour faire connaître la lutte à Bure. Donc bonne écoute.
La France nucléaire, vous y tenez ou vous l'aimez ?
C'est pour poser cette question directement à la population française qu'une caravane pleine d'infos, de motivation et de couleurs a quitté Bure le 15 janvier dernier. Son petit nom, l'Atomic Tour. Bravant tous les aléas climatiques, une équipe de militants et militantes anti-CIGEO va parcourir l'Hexagone durant 7 mois afin de discuter du nucléaire avec les gens et informer sur le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Nous les avons rencontrés lors de leur 4e étape à Metz pour qu'ils nous présentent ce tour.
Donc, alors cette présenter idée... Cette info, de l'Atomic Tour. En fait, c'est né, je pense que c'est quand même né suite à la répression dont a été victime la lutte à Bure. Hein. Cette interdiction pour un certain nombre de se rencontrer, de pouvoir aller sur site, etc. Et donc l'idée que c'était peut-être bien d'aller déjà trouver de l'oxygène et des soutiens ailleurs et puis de diffuser l'information ailleurs. C'est aussi lié à toute cette politique de débat public sur des projets, des grands projets imposés. Il y a une espèce de contrainte purement formaliste, légale, dans des processus pour légitimer des projets. Et bon, voilà, il y a des débats publics qui doivent avoir lieu. Mais on se rend compte, au fil des années, que ces débats publics... bon, d'accord, la population s'exprime au moment des débats publics, mais que les décideurs, les gouvernements, n'en font rien, n'en tiennent pas compte. Donc, autour de CIGEO, il y a déjà eu des débats publics. Hein, et au bout d'un moment, ben, on en a marre d'être berné, voilà. Et il y a eu des débats publics par rapport à CIGEO, il y a eu des consultations publiques par rapport à l'EPR, par exemple, à la cuve de l'EPR. Tu as 14 000 personnes qui participent à une consultation publique et qui disent qu'ils sont en grande majorité opposés à la validation de la cuve de l'EPR. Et puis, bah, la décision finale, c'est que le rapport final, après la consultation publique, c'est exactement le même que celui qui avait été pondu avant la consultation publique. C'est-à-dire que la consultation publique ne sert à rien. Donc, il y a un certain nombre d'associations, de gens qui luttent à Bure et d'organisations nationales qui ont décidé de prendre une position de boycott du prochain débat public qui doit traiter des déchets et des matières radioactives. Voilà. Donc l'Atomic Tour, hein, les amis, ça s'articule là-dedans. C'est-à-dire, c'est vraiment vouloir aller à la rencontre des gens, de la population, et de leur poser la question de eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de l'énergie nucléaire, de toute la filière du nucléaire qui engendre les déchets, et de sortir de débats qui sont formatés, quoi. Voilà. Je pense que...
C'est ça, en gros, sortir du cadre institutionnel du débat public et par nos propres moyens aller interroger donc la population française sur leur rapport affectif à l'énergie et donc au nucléaire, puisque l'énergie française est à 80% issue du nucléaire. Donc, il y a eu l'idée de faire donc du coup cette caravane, partir sur les routes de France pendant 7 mois, Là, on est parti mercredi 16 janvier de Meuse, donc à proximité de Bure, là où il souhaiterait enfouir les déchets nucléaires pour mieux pérenniser l'intégralité de la filière. Et donc pendant 7 mois et 50 étapes, passé dans différentes villes pour l'interroger donc à la fois sur des actions comme ce matin, où on se pose sur un marché, sur une place, et où on arrête aléatoirement les gens qui passent, mais aussi aller rencontrer nos propres comités de soutien de Bure, des groupes du réseau Sortir du nucléaire ou d'arrêt du nucléaire, et aussi des personnes qui sont engagées dans des initiatives locales pour faire changer les choses dans des alternatives. Voilà. On dispense également de l'information, une information différente que celle que fournit les producteurs d'énergie en France. Donc pour ça, on a pris une caravane dans laquelle on a l'intégralité de notre infokiosque. Et puis enfin, on organise également, avec l'aide des personnes qui nous accueillent, des débats. Conférences. Par exemple, hier soir, on a discuté de l'accaparement des terres, qui est un sujet très important à Bure, mais également autour de toutes les centrales en France, là où EDF, avec la complicité de la SAFER, essaie de s'approprier un maximum de terres pour mieux pouvoir échanger, pour mieux pouvoir s'installer sur le territoire. Alors, pas forcément avec des projets bien définis dans un premier temps. J'en profite également pour dire que du coup, dans toutes nos rencontres et toutes nos étapes, on parle évidemment on essaie de faire le tour de tous les projets, les grands projets inutiles et imposés, les GP2I. Puisqu'on se rend compte qu'il y a des similitudes entre tous ces projets. On a souvent les mêmes thématiques qui ressortent. Donc c'est l'occasion de faire un point sur tous ces projets qu'il peut y avoir en France.
Et la même façon de les imposer.
Et sans la même concertation, façon de les imposer.
Sans tenir compte des gens qui vivent sur place, de ce qu'ils en pensent, de ce qu'ils attendent.
Donc là, on en est à notre quatrième étape. Nous sommes à Metz, tranquillement, nous irons vers la Normandie, la Bretagne, pour terminer le 9 août prochain, de retour en Meuse, pour la deuxième édition du Festival des Burlesques, donc qui est un festival d'information sur la poubelle nucléaire, mais un moment qui se veut également festif, avec des concerts, des projections, des spectacles, toutes sortes d'animations pendant 3 jours. Donc ce sera le 9, 10 et 11 août 2019.
Puisque nous sommes dans les dates, l'Atomic Tour fera étape à Lyon les 13, 14 et 15 mai prochains. Mais d'ici là, vous pouvez suivre sur le site de l'Atomic Tour en vidéo le bilan des étapes et découvrir les réponses des gens qui se montrent très intéressés par le sujet du nucléaire.
D'ailleurs, ce qu'on a remarqué depuis le début, c'est que la plupart des gens sont assez sceptiques sur l'énergie et aussi sur les déchets. Mais tout ce qui concerne le nucléaire, en général, les gens sont assez sceptiques. C'est la réponse qu'on a en général dans la rue. On choisit pas les gens, hein, on les aborde comme ça dans la rue, et c'est là où justement où on fait un vrai débat public, c'est qu'on va voir des gens n'importe qui lambda dans la rue, pas des militants ou quoi. On est dans une rue commerçante à Metz. Par exemple, on n'est pas dans des lieux militants pour poser cette question. Puis du coup, on échange, on les informe s'ils ont besoin ou envie d'avoir de l'information. Et du coup, c'est assez intéressant. On a différents points de vue qui sont... mais rarement, on a une personne qui défend corps et âme l'industrie nucléaire. En général, il y a quand même des doutes qui sont là. Même si les gens ne sont pas forcément une personne ce matin qui m'a dit... Je suis pour le nucléaire, mais c'est dangereux. J'ai peur du nucléaire, mais elle était quand même pour le nucléaire. Du coup, de fil en aiguille, en discutant, on se rend compte qu'à la fin, elle est complètement sceptique sur l'industrie de par sa dangerosité, quoi. En parlant de Fukushima, en parlant de Tchernobyl, en parlant de toutes les autres catastrophes qu'il y a eu en France et qu'il y a eu aussi à travers le monde. Et du coup, c'est assez édifiant de voir justement la réaction des gens. Après, donc toutes les informations, moi, on fait des vidéos qui sont faites par étapes. Et du coup, il y a sur le site internet pour avoir toutes les informations sur les étapes à venir et celles qui sont passées. Donc celles qui sont passées, on aura fait un article dessus. Il y aura une vidéo qui viendra aussi appuyer l'étape qui vient de se terminer. Et ensuite, des photos. On met toutes les réponses des gens, on essaie de les écrire sur des affiches. C'est des feuilles A4. Et là-dessus, vous les retrouverez toutes sur le site internet, pareil, atomique-tour.org.
Petite précision sur l'adresse internet, atomique-tour.org, ça s'écrit...
Avec un K. Quel rapport avec cette graine, cet arbuste que nous allons planter symboliquement aujourd'hui? Eh bien, c'est le souhait de Loïc Schneider, l'un de ceux qui ont eu la chance d'aller en prison ces derniers mois. Lui est incarcéré depuis septembre. C'est un opposant au projet du centre d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure.
L'étape Messine de l'Atomic Tour s'est terminée avec un rassemblement d'une trentaine de personnes qui ont planté un arbre selon le souhait de Loïc, un militant anti-CGO qui est en prison depuis août 2018. Il est accusé d'avoir pris part aux manifestations anti-G20 à Hambourg en 2017 et une simple apparition sur une vidéo lui a valu un mandat d'arrêt européen qui, après 3 mois de cavale, a donné lieu à son interpellation en France puis son extradition dans une prison allemande en attente de son procès. Souhaitons-lui de voir cet arbre très vite.
Et très vite également à cette antenne, des nouvelles de Bure et des luttes anti-nucléaires. En attendant, on va vous parler de quelque chose qui fait le tour des médias en ce moment et on en parle aussi. C'est l'affaire Benalla, nouveau rebond dans l'affaire Benalla grâce à Mediapart qui suit ce dossier de près. Ça se passe à Paris, donc le 26 juillet 2018. Alexandre Benalla et Vincent Crase ont tapé déjà depuis plusieurs mois, c'était le 1er mai, des manifestants place de la Contrescarpe et l'affaire a déjà explosé. 26 juillet 2018, donc, ils se voient, Vincent Crase et Benalla, et pourtant, ils n'ont pas le droit de se voir, puisqu'ils sont mis en examen. Ils se retrouvent donc un peu en secret et en petit comité. Depuis quelques jours, donc, que l'affaire Benalla est sur toutes les bouches et sur tous les écrans, ça ne semble pas peser bien lourd à Alexandre Benalla qui court tout Paris, exhibe fièrement ses échanges avec Emmanuel Macron et ses passeports diplomatiques fréquentent divers milieux d'affaires ou divers milieux politiques. La rencontre avec Vincent Crase est enregistrée et on vous avoue qu'on ne sait pas très bien qui l'a enregistrée puisque Mediapart ne nous l'a pas dit. Alors, premier extrait, quand Benalla dit « le patron », il parle évidemment d'Emmanuel Macron.
Alors, attends, truc de dingue, le patron hier soir, il m'envoie un message, il dit « tu vas aller bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Je suis avec Aïsma, etc., on attend le monde, machin, etc. »
Donc le patron nous soutient?
Ah ben, il fait plus que nous soutenir. Ce qui a été sorti de son contact sur... s'est senti trahison, machin, là. Puis voilà, il a dit, je me suis senti trahi, j'ai été déçu. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la déception sur le 1er mai. Ça remet en aucun cas en cause la confiance que je peux leur porter, enfin, je peux lui porter par les mains, en l'occurrence, que je peux lui porter sur machin. Il l'a redit encore, et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet, sur le reste, la justice, elle fera son travail. Quand j'entends les conneries qui ont été dites, machin, etc., il est comme un fou.
Oui, t'avais les codes nucléaires, t'es peut-être son amant, et t'as des dossiers compromettants sur le
bien sûr. Et il est terminable, il a dit comme ça, il m'a dit tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est énorme.
C'est énorme Alexandre, en effet, c'est énorme. Mais à ce moment-là, le 26 juillet 2018, c'est de notoriété publique Alexandre. Tu sais, 2 jours avant la rencontre interdite avec Vincent Crase, Macron a fait un discours. Et dans ce discours qui est devenu célèbre depuis, grâce un peu aux Gilets jaunes, eh bien, il dit clairement qu'au lieu de s'en prendre à son collaborateur, il faut plutôt s'en prendre, donc à toi, Alexandre, il faut plutôt s'en prendre au travail de la presse, au Parlement et à la justice réunie. Et puis il termine son discours, et c'est là où il y a justement ce truc qui a été repris par les Gilets jaunes, qu'ils viennent me chercher. Ce 26 juillet, donc, Alexandre Benalla n'est pas gêné le moins du monde parce que ses agissements ont provoqué comme remous au sommet de l'État et dans l'opinion. Au contraire, il exulte auprès de son ami Vincent Crase. L'affaire Benalla fait bien marrer Alexandre Benalla, mais un peu moins son ami Vincent, qui lors de sa perquise ment aux flics, mais n'est pas très inquiété quand même.
Oh putain, non, quelle merde. Ta femme va bien ?
C'est chaud, hein.
C'est-à-dire ?
Bah, elle est à bientôt 8 mois, là, elle avait rendez-vous avec la sage-femme, justement.
Perquisition ? C'est passé quoi ? Ton millième ménage, t'es tout ?
Ah, t'as vraiment un perquis, non ? Non, mais ils étaient super cool avec moi, les flics. Franchement, super sympa. Au début, j'ai menti, j'ai dit non, j'ai pas de flingue, j'ai pas de flingue, j'ai pas de flingue. Après, ils m'ont dit top. Parce qu'ils m'ont sorti des photos, des gros plans, ils ont analysé tous les détails. On voit bien la forme, on voit même la dragonne que vous aviez. Donc à la fin, tu dis, ok. C'est bon, j'avais un flingue.
C'était un film, l'histoire, quand même, hein ?
Ah, mais c'est un cauchemar, ouais.
C'est une bonne expérience. T'as pas trouvé qu'à 26 ans, il y a pas grand monde qui provoque deux commissions d'enquête parlementaires, qui bloque le fonctionnement du Parlement.
Ça le fait rire.
Lui, ça le fait marrer. Lui, il est mort de rire. Il est nerveusement, mais ça le fait marrer. Lui, ça le choque pas plus que ça. Si on est entouré d'une bande de débiles, si demain il y a vraiment une crise, comment ça va se passer, quoi ? C'est Ismaël qui m'a dit ça tout à l'heure. Il m'a dit, écoute, si demain il y a vraiment un truc beaucoup plus grave et tout, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais réagir comment tous ces cons ?
Et quelques jours plus tôt, une étrange scène a surpris tout le monde. La police, en perquisitionnant tant bien que mal l'appartement de Benalla, vous en rappelez peut-être, à Issy-les-Moulineaux, en Haute-Seine, vous n'y étiez pas, mais on en a beaucoup parlé. La police découvre donc que son armoire forte a disparu. Et Alexandre de dire « Bah, elle a dû être emmenée en lieu sûr par une personne, mais c'est pas moi qui me suis occupé de cela. » Voilà ce qu'il a confié sur un procès verbal, mais il refuse de dire qui est cette personne. De fait, les perquisitions et les découvertes qui parfois les accompagnent semblent inquiéter tout particulièrement son copain Vincent Crase lors de sa rencontre secrète avec Benalla. Troisième extrait.
Moi, j'ai fait le point avec mon avocate, là. Elle me dit que bon, médiatiquement, moi, je passe sous les radars, parce que ça s'intéresse pas à moi. Judiciairement, donc, j'ai l'émission en force publique, violence volontaire en réunion, elle m'a dit que ça ne sera pas tenir. Parce que apparemment vous me tapez, ce que les flics m'ont dit, ce que la juge m'a dit. Après il y a le port illégal de l'arme.
Est-ce que tu vas prendre du sursis ?
J'ai pris du sursis. Mais ils vont perquisitionner en marche.
Encore ?
Apparemment il y a une perquise, ouais. Mais toutes mes affaires sont là.
Encore ?
Je sais pas. Alors, j'essaierai bien d'y aller cette nuit, mais le problème c'est qu'il y a des flics devant.
Manifestement friand d'informations confidentielles sur les enquêtes en cours et les perquisitions en cours, comme on vient de l'entendre, Alexandre Benalla veut donner l'impression d'avoir toujours un coup d'avance. Et la sérénité de Benalla, à l'écouter, est totale. Et elle ne vient pas de nulle part. Il dit avoir tout l'Élysée derrière lui. Et quand Crase lui demande par qui il est concrètement soutenu, l'ex-conseiller d'Emmanuel Macron rétorque du tac au tac.
T'es soutenu par qui ? Par le président, madame ? Ismaël qui me conseille sur les médias et compagnie. Là, sur TF1, je pense que je vais pas le faire. Je sais pas qu'est-ce que
t'as. Non. Surtout pas. Enfin, moi, mon avocate, elle me dit, mais elle a pas compris ce que t'as fait. Hein. Elle me dit, mais putain, faut pas les alimenter.
Je répète ce qu'il y a dans mes auditions.
Ouais, mais plus tu dis des choses, plus ça les excite. Là, l'intensité au niveau médiatique, hein, je dis pas politique, descendait un peu. À chaque fois que tu remets des pièces dans la machine, pouf, ça repart. Pour ça que moi, il m'a dit aucun communiqué. Tous les journalistes de la Terre m'ont appelé, je leur ai dit d'aller se faire foutre. Je parle à personne. Parce que moi, médiatiquement, je suis sous les radars, mais juridiquement, peut-être qu'il va se passer quelque chose quand même.
Il est aussi un autre sujet qui inquiète le tandem Benalla-Crase. L'affaire du contrat russe. Alors c'est un peu compliqué, on a un peu lu Mediapart, on résume ça. L'oligarque russe Makhmudov a signé un contrat de sécurité avec Mars. Alors, c'est pas les barres chocolatées, c'est la société de Vincent Crase. Il l'a appelé comme ça en référence à Macron qui s'appelle Jupiter. Enfin, son surnom de Jupiter. Ils sont malins. Ils sont très malins. Voilà. On rigole bien. Donc, cette société Mars a signé un accord avec l'oligarque russe. Et ce contrat est renouvelable à chaque trimestre. Et il prévoyait notamment la protection des biens immobiliers en France de l'homme d'affaires et de sa famille à Monaco. Je répète donc, la société Mars, présidée par Kras, doit protéger les biens immobiliers de l'oligarque russe à Monaco. Cet oligarque russe, Makhmudov, est un proche de Vladimir Poutine et il est à la tête d'un véritable empire industriel en Russie. Mais il est aussi soupçonné par plusieurs magistrats européens d'acquaintance avec l'un des pires groupes criminels moscovites. Alexandre Benalla n'ignore pas le profil sulfureux de l'oligarque. Il est d'ailleurs au courant que la justice française s'intéresse à lui. Cet ancien collaborateur d'Emmanuel Macron l'a dit et redit, y compris sous serment devant la commission d'enquête sénatoriale le 21 janvier. Jamais il n'a contribué à la négociation ou à la conclusion de ce contrat russe. C'est faux. En réalité, Alexandre Benalla est personnellement impliqué dans ce contrat, y compris dans ses montages financiers. Les discussions autour du contrat ont commencé dès l'hiver 2017, nous disent les journalistes de Mediapart. Elles se sont accélérées en juin, en sa présence, alors qu'il était toujours en fonction à l'Élysée. Après le coup de projecteur causé par l'affaire du 1er mai, Benalla s'inquiète des répercussions sur Mars. Pas la planète, pas la barre chocolatée, mais la société de Vincent Kras et de l'intérêt que la justice pourrait porter à la société. D'autant plus, et pour compliquer un petit peu plus ce dossier, en fait, cette société Mars sous-traite son travail à une autre société qui s'appelle Velours. Et alors là, tout le monde commence à flipper, d'autant qu'ils n'ont pas vraiment le contrôle sur cette sous-traitance faite par Velours, et Benalla est furieux contre ses amis quand même de Velours, et il dit « Velours, ils vont se faire enculer, hein. Moi, je m'en bats les couilles, c'est pas poli. Moi, les rats qui quittent le navire, j'aime pas trop. » Renchérit Vincent Kras, on les entend tout de suite.
Il y a la brigade financière qui a ouvert une enquête sur la boîte,
ouais.
Sur Marc, ils cherchent tout de toute façon. Donc faut changer le portage, faut faire ce qu'on avait prévu de faire il y a 3 semaines, faut faire changer le nom, faut que tu disparaisses de la boîte. Donc faut qu'on trouve un mec.
Vincent Kras est inquiet. Là, il y a le feu, faut essayer de s'en sortir, dit-il à son compère. Il redoute des fuites dans les médias. Surtout, il s'interroge sur son propre avenir financier, son portefeuille à lui. Après son licenciement à venir du parti à l'REM, et alors là, bon, Alexandre, bon copain, tente de le rassurer, il touchera le chômage et pourra profiter bientôt de l'argent de la société.
Comment ça se passe pour chez La République En Marche pour toi?
Là, je suis viré le 31.
Le 31 juillet? Ok, c'est bon, après, tranquille, chômage.
Ben si, j'ai mes droits au chômage.
Mais bien sûr que c'était mon chômage.
Ah, ben si, c'est une faute grave, oui. Si c'est une faute lourde, non.
Si t'as le droit, dans tous les cas, pour faute, licenciement pour faute, t'as le droit au chômage, dans tous les cas.
Moi, je devrais servir dessus. Après, je vais vivre de quoi?
Et ben après, là, tu vas prendre le chômage, t'étais à 2007, donc tu vas toucher 1009. 1800 euros net à peu près pendant un an et demi et avant qu'on fasse ça on aura sorti l'argent de la boîte et on va se démerder, on va aller au Maroc et au Sénégal, on va s'éclater. Non mais on va y arriver. Non, ce que je trouvais, c'est malheureusement Velours, et c'est sûr pour eux, ils vont se faire enculer, hein, je m'en bats les couilles. C'est...
Et voilà pour ce qui a été révélé, c'était hier, par Mediapart. On lit bien ce site et puis c'est bien sûr qu'on aura bien sûr, pardon, un nouvel épisode dans un mois sans doute. C'était en tout cas très agréable d'entendre Alexandre et Vincent au naturel.
Quand on sort le texte du contexte, quand on sort le mot du discours, on peut tout faire dire.
La voix off
est polémique.
C'est là, maintenant.
Il s'agit d'un trucage.
Française, Français. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Et je veux vous le dire d'emblée. Il n'y a plus d'espoir. Les plus fragiles ne bénéficieront d'aucune indulgence. Le seul projet, c'est de blesser certains d'entre vous. Lâchement. C'est donc désormais la violence, le désordre et l'anarchie qui doivent régner. Nous y mettrons tous les moyens. J'ai donné en ce sens aux policiers les instructions les plus rigoureuses. Mais cette détresse, elle peut être notre chance. Ce mal-vivre qui est le nôtre, je le veux pour la France. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Malaise des travailleurs, malaise. Malaise des territoires, malaise. Malaise démocratique, malaise face au changement de notre société. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Le malaise, je le veux pour la France. Un malaise jamais exploré, pour nous-mêmes et pour le monde. Je le veux pour nous tous, Français. Pour cela, nous devons avant toute chose assumer tous ensemble cette détresse. Vous y aurez votre part. Je veux intervenir vite et concrètement sur ce sujet. Le malaise d'un travailleur au SMIC augmentera dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une déprime de fin d'année à leurs employés. Et cette déprime n'aura à acquitter ni impôts, ni charges. Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux services publics dans tous nos territoires, pour bâtir le socle inadmissible de notre nouveau contrat pour la nation. Sur ce point, nous sommes allés trop lentement. Vous le voyez, on aura des craintes, des violences, des colères. Nous sommes à la tâche et je reviendrai déprimé devant vous pour vous rendre compte. Mon seul souci, c'est l'anarchie. Mon seul combat, c'est cette détresse. C'est pour vous. Notre seule bataille, c'est le malaise pour la France. C'est là. Maintenant. Vive la République. Vive la France.
La voix prouf
et polémique.
Quelques heures plus tard, la vérité éclate. Il s'agit d'un trucage.
Et oui, il s'agit d'un trucage. On vient d'écouter le tout dernier montage de Polémique et la voix off qui n'avait plus fait grand-chose depuis 2013 ou 2014. À l'époque, ils avaient fait un magnifique album qui s'appelait Danse sur ta droite avec des jolis montages de François Fillon. Là, c'était le discours du 1er janvier d'Emmanuel Macron par Polémique et la voix off.
Et on change de sujet pour l'actualité brûlante, puisque c'est ce matin, que les sages du Conseil constitutionnel ont tranché. Et pour eux, la pénalisation des clients, des prostituées, enfin des personnes prostituées, ne porte pas atteinte aux droits et libertés des personnes prostituées. Cette mesure centrale de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnelle ne sera donc pas abrogée. Alors il faut savoir que depuis son adoption controversée en 2016, l'infraction de recours à l'achat d'actes sexuels, donc les clients encourent une amende de 1500 euros ou de 3750 euros en cas de récidive, est au cœur d'un bras de fer entre ses défenseurs et ses détracteurs. Pour ces derniers, donc pour les personnes qui sont contre cette loi, ils ont donc déposé il y a 2 mois et demi une question prioritaire de constitutionnalité au nom de la non-conformité de cette disposition législative. Au nom de quoi ? Au nom du droit à la vie privée et à l'autonomie personnelle, au droit à la liberté d'entreprendre, ainsi qu'au principe de nécessité et de proportionnalité des peines. Des arguments qui n'ont manifestement pas convaincu l'institution. Alors, les travailleurs et les travailleuses du sexe et les associations, pour eux, cette loi, qui réprime même entre adultes consentants le recours à la prostitution, méconnaît les droits constitutionnels à l'autonomie personnelle et à la liberté sexuelle, le droit au respect de la vie privée, la liberté contractuelle, la liberté d'entreprendre, ainsi que le principe de nécessité et donc, comme je vous l'avais dit, de proportionnalité des peines. De plus, il faut quand même savoir que les premières évaluations de cette loi, donc adoptée en 2016, confirment les craintes des collectifs des travailleurs et des travailleuses du sexe et des associations de santé communautaire. En effet, le volet social n'est pas ou peu appliqué, alors que les travailleurs et les travailleuses du sexe sont toujours contrôlés et toujours pénalisés pour leurs camionnettes ou leurs papiers. Les clients ont peur, les revenus diminuent, ce qui augmente la stigmatisation et la précarisation ces personnes. Au final, la loi a des effets négatifs sur la sécurité, la santé et les conditions de vie en général de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses du sexe.
Prostitution, quelles sont les conséquences de la loi de pénalisation des clients ? Cette loi de 2016, défendue par le mouvement abolitionniste, considère les personnes prostituées comme des victimes d'un système dont les coupables seraient les clients. Mais 2 ans après son adoption, les collectifs de travailleuses et travailleurs du sexe et les associations de santé communautaire montrent que la loi met en danger les personnes qu'elle prétendait protéger. La répression et la stigmatisation continuent. Les personnes prostituées sont toujours autant contrôlées par la police et pénalisées. Le volet social n'est pas ou peu appliqué. Le parcours de sortie de la prostitution peine à être mis en place et souvent ne répond pas à leurs besoins. Moins de clients, ça veut dire moins de revenus, plus de concurrence et la baisse des tarifs. les conséquences sont désastreuses pour les personnes déjà précaires, en particulier les femmes migrantes travaillant dans la rue. Elles travaillent plus, dans des conditions plus stressantes et plus dangereuses. Cachées, elles sont davantage exposées aux agressions et se retrouvent contraintes d'accepter des clients qu'elles n'auraient pas acceptés auparavant. Elles ont plus de mal à négocier leurs conditions, à imposer le port du préservatif et à refuser les pratiques sexuelles à risque, ce qui met gravement en danger leur santé. Les associations demandent donc la suppression de la loi et la contestent devant le Conseil constitutionnel.
Et malgré du coup cette alerte, cette alarme des associations, eh ben, le Conseil constitutionnel a quand même validé cette pénalisation des clients. Donc pour rappel, par les juges aujourd'hui, le rappel par les juges que les prostituées sont majoritairement des victimes de la traite, ravit les associations abolitionnistes comme le Mouvement d'Unis et la Coalition pour l'abolition de la prostitution, qui s'était portée partie intervenante en défense des dispositions de la loi. On rappelle quand même que cette validation de la pénalisation des clients est pourtant bien une infantilisation des personnes prostituées, privées désormais du droit de disposer de leur corps. Pour le STRAS, le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, puisque les travailleurs et travailleuses du sexe sont tenus de payer des impôts et des cotisations sociales à l'URSSAF, sous peine d'être condamnés pour travail dissimulé, l'État reconnaît pleinement le travail du sexe comme un travail, nomenclature des activités françaises de l'INSEE et du code NAF à l'appui, malgré le refus de l'ensemble de la classe politique de le reconnaître. La pénalisation des clients est donc, en tant qu'entrave à l'exercice du travail sexuel, une atteinte à la liberté d'entreprendre et de commerce, reconnue comme un droit constitutionnel. Et c'est cette incohérence juridique qui a été reconnue par le Conseil d'État et qui est devenue un des principaux arguments de la question prioritaire de constitutionnalité, à côté de ceux sur le droit à l'autonomie personnelle, la liberté sexuelle, à la vie privée et le besoin de proportionnalité et nécessité des peines. Donc c'est un peu un échec aujourd'hui, c'est le vote de cette loi. Et on souhaite bien du courage du coup aux associations qui s'organisent pour que les travailleurs et travailleuses du sexe puissent travailler dans de bonnes conditions, soient reconnus en tant que tels. Et voilà.
J'avais pas mon micro allumé. La semaine dernière, on vous avait parlé des luttes, des mobilisations dans les centres de rétention administrative. Pour rappel, les centres de rétention administrative, les CRA, sont des lieux de privation de liberté où l'on détient des personnes étrangères en situation irrégulière dans l'attente de les expulser vers leur pays d'origine, qui les détient à l'État français par la police aux frontières, la PAF. Du coup, depuis le 3 janvier, plusieurs CRA sont en mobilisation. Ça se passe notamment par des grèves de la faim et par la production de communiqués que les détenus ou les personnes retenues arrivent à faire passer à l'extérieur et donc qui sont bien diffusés par les médias libres que nous aimons. Du coup, c'est notamment les CRA du Ménil-Amelot, d'Oissel, de Plaisir, de Vincennes. Les grèves avaient un peu baissé les dernières semaines parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement dur. Mais le week-end dernier, la grève de la faim a repris au bâtiment 2A, au centre de rétention de Vincennes. Et en même temps, la mobilisation a pris aussi dans le centre de rétention de Plaisir. Du coup, ce qu'on va vous lire ici, c'est un communiqué écrit par les retenus de Vincennes. Mais on vous rappelle que vous pouvez lire l'intégrité des communiqués faits par les personnes retenues dans l'ECRA sur le site, par exemple, abalecra.noblog.org. Et même, il y a une émission toute récente de L'Envolée que vous trouvez également sur le site de L'Envolée, hyper bien là-dessus. Du coup, voilà, je vais vous lire rapidement le communiqué écrit par les personnes retenues dans le centre de rétention de Vincennes. À l'attention de M. Macron, du préfet de police de Paris, à nos dirigeants africains, aux associations d'aide et aux âmes sensibles. Depuis plusieurs semaines, nous sommes détenus illégalement dans un centre de détention nommé Vincennes 2. Nous sommes pour la plupart des pères de famille, des travailleurs, des personnes venues rejoindre la famille. En effet, sur le coup d'un simple contrôle de titre de séjour, nous sommes détenus ici, au centre, comme des criminels, des voleurs. Personne ne devrait être au centre de rétention. Qui est en règle dans le monde ? Évidemment que nous cherchons tous à régulariser notre situation, mais dans l'attente, nous sommes arrêtés.
Le constat est que nombreux sont les couples que vous avez divisés, les familles qui vous séparaient, des pères de famille qui se voient éloignés de leurs enfants, des projets de mariage qui tombent à l'eau. À quelles questions répondent toutes ces interpellations et toutes ces détentions? On ne saurait répondre. Depuis le 27 janvier 2019, nous avons entamé une grève de la faim afin de revendiquer nos droits. Nous demandons juste notre liberté et une facilité d'insertion dans la société. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes le monde. Signé les retenues du CRADE en grève de la faim. Du coup, si vous voulez participer au soutien de cette lutte de l'extérieur, vous pouvez contacter les personnes mobilisées sur l'adresse anticra@reset.net ou bien si vous êtes en région parisienne, il y a tous les mercredis à 18h des réunions pour organiser la solidarité à Montreuil au 19 rue Garibaldi, métro Robespierre, ligne 9. Et on vous passe là.
Et puis des infos sur les CRA, la prison toujours, etc. On en a à Lyon via notamment rebellion.info, mais aussi tous les jeudis de 20h à 21h sur Radio Canu.
Et
la petite cuillère.
Qui d'ailleurs organise un super après-midi anticarcéral ce samedi à 15h30 à l'atelier de Canular. Voilà le petit aperçu de l'agenda qu'on vous passe tout de suite.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
l'agenda!
Et oui, et il est 19h56 sur Radio Canu et vous avez déjà entendu le jingle de l'agenda. Vous allez donc pouvoir sortir un stylo et savoir quoi faire ce week-end. On va commencer par demain matin, assez tôt, 10h, pour aller soutenir les assistantes maternelles, les aides à domicile et les aides à domicile contre la réforme de l'assurance chômage. Donc il y a une manifestation demain, appelée par les syndicats FO et CGT, entre 10h et midi, dans toute la France. À Lyon, le rendez-vous est donné à Bellecour, du coup, pour défendre les conditions de travail des assistantes maternelles et des aides à domicile. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez aller manger où bon vous semblera, avant, attention, de devoir choisir, puisqu'il n'y a pas moins de 3 après-midi palpitantes qu'on vous propose demain. On va commencer par celle à Terre des Livres. À Terre des Livres, vous pourrez rencontrer le collectif Moissy autour du livre Afrofemme. Alors, qu'est-ce que c'est que le collectif Moissy et qu'est-ce que c'est que ce livre Afrofemme qui est sorti aux éditions Sileps? Je vous lis un petit descriptif. Les femmes noires en France doivent être sauvées de leur famille, de leur communauté. Ce sauvetage est proposé gracieusement par l'État au travers de l'école républicaine, appuyée par des alliés de choix. Moissy est un collectif de femmes qui ne veulent pas être sauvées par qui que ce soit. Femmes noires et afrodescendantes, nous désignons l'État français, le féminisme blanc et dominant et le racisme d'État comme des ennemis politiques. Si vous voulez en savoir plus, donc, allez rencontrer ce collectif à Terre des Livres, c'est rue de Marseille, dans le 7e arrondissement, demain à 15h. Mais demain à 15h aussi et toujours dans le 7e arrondissement, vous pouvez aussi aller rencontrer les personnes qui animent la revue Nunatak. Nunatak, qu'est-ce que c'est? C'est une revue papier qui traite de toutes les luttes et des cultures des montagnes. Et notamment, du coup, vous pourrez vous interroger avec le collectif Nina Lyon contre les Center Park et le collectif de la revue Nunatak sur quelle lutte dans nos montagnes. Et ça, c'est demain aussi à 15h au Jusqu'ici, 169 Grande Rue de la Guillotière, dans le 7e arrondissement. Également. Et enfin, du coup, on vous l'a déjà un peu annoncé, mais à partir de 15h30, vous pouvez aller assister à une projection discussion sur les luttes contre la tôle à l'atelier des Canulars, ça c'est rue Montesquieu. Et notamment, à partir de 15h30, il y aura la projection d'un film qui s'appelle Ils ont volé nos nuits, qui est tourné au Mexique en octobre 2016 et qui est un documentaire qui donne la parole à des prisonnières, à des compagnes solidaires, à des mères de famille ou à des camarades qui racontent la manière dont la tôle se sont emparées de leur vie. Je crois même que vous pouvez y passer toute votre soirée, puisqu'après, il y aura de quoi vous sustenter. On vous offre gracieusement le dimanche pour vous remettre de tous ces choix politiques qui ont été durs à faire pour le samedi, mais on vous appelle quand même à aller manifester lundi, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse manifestation, notamment suite au report du procès de l'Amphizède pour le droit au logement et non aux expulsions, et le rendez-vous est donné dès le matin à 9h au tribunal d'instance de Villeurbanne. Et bien écoutez, pour la suite, je vous invite à aller sur rebellion.info. Vous avez déjà des... votre agenda rempli jusqu'à lundi.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans.
savoir ce que ça veut dire ACAP
Cagnos du vendredi.
Eh bien, Marius, ce soir, ACAB est un cri d'espoir, mais ça n'est qu'un espoir, car en ce moment, Marius, à Lyon, le samedi, les manifestations sont chaudes et violentes et on a peur. Alors, espérons que, ACAB, l'antifascisme crève allègrement le bastion. Noise pollution.